7h30 minutes, c'était la mise à jour hier, la première du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, mise à jour économique, et des mesures ont été annoncées qui visent les familles avec enfants, les retraités, également les entreprises du Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, est avec nous. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Girard, d'abord, dans les mesures annoncées hier, je comprends que c'est une première étape. Est-ce que vous avez, la question qui est soulevée par plusieurs, avez-vous un plan pour les 4 prochaines années? Est-ce qu'on s'attend, parce qu'il y a des engagements électoraux qui ont été pris, à des baisses d'impôts pour l'ensemble des contribuables pour les 4 prochaines années? Là, c'est une première mesure, on est d'accord, mais avez-vous une stratégie globale?
Bien, définitivement, durant la campagne électorale, ce qu'on a dit, c'est que toutes nos mesures seraient implantées sur 4 ans. Et la raison pour ça, c'est qu'il faut payer pour ces mesures-là et les sources de revenus vont venir aussi progressivement. Alors, c'est en équilibre. Actif, passif, revenu, dépenses, tout ça va se faire sur 4 ans.
OK. Ce qui a été donné hier,
oui,
et qui va être versé aux familles québécoises, par exemple, et aux personnes retraitées, là, est-ce que vous vous engagez à ne pas retirer ces avantages-là au cours des 4 prochaines années?
Oui.
Vous allez maintenir ça, quoi qu'il arrive sur l'état de l'économie du Québec?
Bien, on l'a donné. C'est l'intention, puis j'aimerais dire que...
Non, mais des crédits d'impôt, des fois, ça disparaît.
Oui, mais justement, hier, le Québec a fait un geste pour les entreprises en ajoutant une bonification de 30 %. J'ai spécifié que cette mesure-là est permanente. Les crédits d'impôt temporaires, c'est moins efficace. C'est vraiment l'objectif de faire des gestes structurels. On veut que l'économie soit plus forte à long terme. Pour ça, il faut stimuler l'investissement des entreprises, il faut stimuler l'offre de travail. Et ce n'est pas avec des gestes temporaires qu'on fait ça, c'est avec des gestes permanents.
Au terme de 4 ans, en termes de baisse d'impôts, vous voulez remettre combien aux Québécois, mettons par famille?
Bien, ce qu'il y avait, je vais vous donner en termes macro, là, ce qu'il y avait dans le plan financier, les deux principales mesures, c'était la baisse de la taxe scolaire. Ça tourne autour de 800 millions par année, la 4e année. Et l'allocation familiale, même ordre de grandeur. Okay? Lorsque tout le monde sera au niveau du premier enfant. C'était les deux mesures cibles. Vous, quand vous parlez de baisse d'impôts généralisée, là, pour ça, là, on doit poursuivre notre travail qui est fait au niveau de réduction du fardeau de la dette. Quand on aura atteint nos cibles, là, autour de 2025, là, c'est comme un moment charnière pour le Québec, structurel à long terme, où on aurait moins de dette que l'Ontario, le même niveau de dette que le Canada. Là, je parle dette nette par rapport au PIB. Et ça, ça permettra de réduire la dépendance à la péréquation et de redonner de l'argent aux contribuables.
Une série de questions. Je parlais avec mon collègue McSween tantôt. Là.
Oui.
Je prends l'exemple là, pour deuxième, troisième enfant. C'est quoi? Un revenu familial d'autour de 100 000.
Oui.
OK. Mettons, je ne suis pas trop honnête. Là. La mesure fiscale que vous proposez, là, mettons, je m'arrange pour que mon revenu familial déclaré soit de 40 40 000 ou 45 60 mais bon. Puis je vais chercher le reste au noir. Vous, là, vous n'encouragez pas...
J'encourage pas ça, non.
Non, mais vous n'encouragez pas non plus les revenus déclarés, parce que si je le déclare, ce revenu-là, je perds des avantages.
Bien, écoutez, je l'ai entendu, le commentaire de M. McQueen. C'est un commentaire valide. Et c'est pour ça qu'on a des consultations prébudgétaires. Je l'invite à venir nous faire part de ses inquiétudes.
Mais il n'y a pas un niveau où la fiscalité pousse les gens à pas tout déclarer puis pousse les gens vers le marché noir.
Bien, moi, je veux que les choses soient simples pour tout le monde. Regardez, hier, on a fait un geste pour les aînés. Crédit d'impôt pour les aînés de plus de 70 ans à faible revenu. C'est extrêmement ciblé. 200 $ par personne. Savez-vous combien ce qu'on a de crédit d'impôt puis de mesures pour les aînés? J'en ai compté 13. Alors, c'est sûr qu'il y a un ménage à faire là-dedans.
Non, mais hier,
pour
là,
simplifier.
Quand vous me dites 200 $ ça leur donne combien par mois?
Mais ça donne un 12e de ça.
C'est pas grand-chose.
Bien, c'est significatif quand vous êtes à faible revenu. C'est une mesure, 100 millions par année. Il y a déjà eu des mesures fiscales au Québec pour 25 millions.
Pour une personne de 70 ans, c'est 15 $ par mois. Dites-moi pas que c'est significatif, là.
Bien, c'est pas rien. 200 $ par année.
Bien,
moi, ça, j'entends les chroniqueurs se plaignent, puis 15 $ par mois, les gens font les... Mais moi, j'ai pas entendu aucun aîné appeler à mon bureau pour me dire qu'il voulait pas, là. 200 $ par année, c'est significatif.
M. Girard, on ne fera pas de bataille de ce qui est significatif ou pas, mais sérieusement, mais 15 piastres par mois...
Mais on parle des aînés de 70 ans et plus, à faible revenu.
OK, mais dites-moi que c'est un coup de pouce, dites-moi pas que c'est significatif 15 piastres par mois.
C'est un geste ciblé, vous ne voulez pas dire que c'est significatif.
Ben, c'est rien 15 piastres par mois,
m'excuse. C'est un effort.
On peut faire de la sémantique jusqu'à demain, mais OK, vous me dites que c'est un effort?
Oui.
OK. L'autre question qui est soulevée par beaucoup de gens, c'est que le premier ministre a annoncé que jamais le budget de l'éducation sera affecté par exemple, une mauvaise croissance économique, enfin, un problème économique, et que donc le budget de l'éducation sera jamais touché. Exact?
Oui.
OK. Il y a des enjeux majeurs en éducation, que
c'est
ce
vrai.
Soit pour des constructions, rénovation d'écoles, l'embauche de spécialistes, rehausser le niveau des revenus des enseignants dans les premières années. Là. Est-ce que au ministère des Finances, on sait exactement combien on va dépenser pour les prochaines années en éducation? Je comprends que c'est le Conseil du Trésor, là, mais avez-vous la vision globale de ça?
Mais une chose qui est importante, c'est d'avoir un financement stable. C'est très important que le financement fluctue pas au gré du cycle électoral. Alors, nous, ce qu'on s'est engagé en campagne électorale, c'est 3,5 % par année pour 4 ans, stable de croissance. Puis ça, c'est beaucoup mieux que 0,055. 3,5 % stable pendant 4 ans. Là, ce que vous parlez, les investissements, rénovation des écoles, tout ça, c'est des dépenses en infrastructure. Et puis oui, il y a un déficit, on appelle ça le déficit de maintien d'actifs, qui est important. Il y a des investissements majeurs à faire, mais tout ça ne pourra pas se faire en un été. On va travailler là-dessus, et le gouvernement précédent avait commencé. On va en faire plus. On le sait, ça. C'est connu qu'il y a un déficit
mais
de maintien d'actifs.
Là, parlons de philosophie. Le Parti québécois, entre autres, disait, plutôt que de retourner un 15-20 piastres par mois du monde, là, gardons l'argent, investissons massivement pour refaire les écoles, pour reconstruire.
Permettez-moi de
ces deux philosophies-là.
Oui. Mais c'est que les dépenses cette année là, sont déjà en croissance de 5 % par année. L'an dernier, même chose. Et et ce qu'on a constaté dans les comptes publics, c'est que le niveau de dépenses, on n'arrive même pas à réaliser ce niveau de dépenses promis. On a fait 4 % pour les 6 premiers mois et non le 5 qui était prévu.
On n'est pas capable de dépenser.
Donc, il faut faire 6 dans le deuxième 6 mois pour faire 5 en moyenne cette année. Alors, même si j'arrivais puis j'ajoutais de l'argent, on n'arriverait pas à le dépenser. Puis, le ministre de l'Éducation est en place depuis 6 semaines. Okay? C'est un ministère. Santé, éducation, culture, c'est 25 milliards de dollars. Le ministre de l'Éducation est en place depuis 6 semaines. Il faut lui donner le temps de mettre en place ses priorités. Et le budget, il augmente cette année en éducation, puis il va augmenter encore l'an prochain.
Non, c'est juste qu'on essaie de voir, là, je comprends que vous venez d'arriver, là, on essaie de voir où vous allez. C'est un peu ça.
L'éducation, c'est une priorité.
OK. Puis là, quand on voit le rapport de la vérificatrice sur les centres de soins de longue durée, est-ce que la santé va devenir aussi une autre priorité?
Bien, définitivement. C'est les deux services. Je vous dirais, au niveau des services, il y a trois choses qui sont prioritaires. Santé, éducation et s'occuper de la congestion routière. Ça, là, moi, je suis député de Groulx, responsable de la région de Laval. Il y a un problème de congestion routière sur la Rive-Nord et les Basses-Laurentines. Et tout le monde m'en a parlé. J'ai fait 3000 portes durant la campagne électorale. En fait, les gens m'ont même pas parlé de santé et éducation. Les gens m'ont parlé de congestion routière.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Bien, il faut faire des efforts.
OK, bien, ça veut dire quoi, faire des efforts?
Bien, ce qui paraît le plus évident, ce serait des voies réservées pour les autobus, les voitures électriques, puis le covoiturage sur la 13, puis la 15 vers le sud. Et on a un enjeu. Lorsque le train de deux montagnes va fermer, ça va ajouter des voitures. Alors, idéalement, il faudrait qu'une de ces voies réservées-là, la 13 ou la 15, soit faite avant la fermeture du Rhin.
Vous pensez à un crédit d'impôt pour les gens qui sont coincés dans des bouchons de circulation?
Non, j'ai pas pensé à ça, mais on a des consultations prébudgétaires. Vous êtes bienvenus pour faire des suggestions.
Non, mais parce que c'est vrai ce que vous dites pour la Rive-Nord, mais c'est vrai aussi pour à peu près tous les gens qui habitent. Puis là, c'est une question de philosophie aussi. À Québec, c'est le troisième lien, c'est la bataille là-dessus. Dans la région de Montréal, on veut... je comprends qu'il y a des projets, le REM est une des options. Mais vous, là, voulez-vous mettre de l'argent dans des voies réservées ou dans des infrastructures de transport en commun?
Bien, en fait, les voies réservées, c'est un...
Non, mais exemple...
C'est pour les autobus, prioritairement. Là.
Oui, mais des voitures aussi, avec deux passagers.
Les voitures avec... Puis là, les entreprises ont des responsabilités aussi, là. Moi, je viens de la Banque nationale. Là. La Banque nationale puis Desjardins là, doivent faire des pools de travailleurs pour qu'il y ait le covoiturage. Une des choses que j'ai constatées, moi, parce que je suis allé dans mon comté tous les jours durant la campagne électorale, c'est qu'il n'y a pas tant de voitures que ça dans voie réservée. Il y a des voitures électriques.
Non, les gens voyagent seuls, ce que vous voulez dire.
Il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls. Alors, peut-être que là, il faut... c'est pas juste le gouvernement. Peut-être que les entreprises doivent embarquer là-dedans.
Donner un crédit d'impôt aux entreprises pour créer... Non, mais ça marche comme ça, c'est avec des bonbons, des nananes, puis peut-être qu'ils vont finir par faire quelque chose.
Ils ont pas besoin, Desjardins et la Banque nationale n'ont pas besoin de crédit d'impôt pour favoriser le covoiturage.
M. Girard, merci beaucoup d'être venu ce matin. Éric Girard est le ministre des Finances, 7h40.